RFI, Radio France Internationale, 15h à Pékin, 9h à Paris, 8h à Alger.
Andréane Mélard.
Et tout de suite, c'est le retour de Léa Boutin-Rivière pour le journal.
Bonjour à toutes et à tous. Jusqu'où la surenchère ira-t-elle? En réaction aux droits de douane américains, la Chine a frappé fort hier avec de sévères mesures contre l'avionneur Boeing. Le climat économique préoccupe de plus en plus en Chine.
Après avoir fait craindre l'escalade, l'exécutif français calme le jeu.
Le chef de la diplomatie, Jean-Noël Barrot, s'est exprimé ce matin après plusieurs jours de brouille croissante avec l'Algérie. Sur fond d'expulsion d'agents consulaires, le ministre défend les mesures déjà prises, mais souhaite reprendre un dialogue franc et exigeant. Également dans ce journal, l'inquiétude d'une ONG israélienne après la confiscation de biens appartenant à des Palestiniens. Et puis en France, nouvelle attaque contre une prison ce matin.
Pour l'administration Trump, la balle est dans le camp de la Chine concernant les droits de douane.
C'est ce qu'a affirmé ce matin l'exécutif, qui juge aussi que Pékin a plus besoin d'un accord à ce sujet que les États-Unis. Certaines entreprises américaines n'ont peut-être pas tout à fait la même vision des choses. À l'image de Boeing, l'avionneur, déjà en difficulté, fait maintenant face à des mesures de rétorsion de Pékin. Suspension de la livraison de ses avions et interdiction pour les entreprises chinoises d'acheter des pièces détachées américaines. Ça, c'est pour les mesures officielles venues des autorités. Mais il y a aussi les petites adaptations, les solutions trouvées par les entreprises de taille plus modeste. Illustration à la foire de Canton, un salon professionnel réunissant 31 000 exposants, quasi tous exportateurs. Cléa Broderst, bonjour.
Bonjour Léa, bonjour à tous.
Vous vous êtes rendu à cet événement. Évidemment, les taxes douanières sont une vraie préoccupation pour tous ces acteurs.
Oui, et certains étaient très inquiets au départ, pas de doute là-dessus. C'est le cas de Yue, écoutez-le, qui vend des batteries automobiles.
Au début, j'étais vraiment un peu anxieux. Le choc est assez sérieux. Certains clients ont fait une pause. La plupart sont probablement encore dans une phase d'attente, parce qu'en ce qui concerne les droits de douane, ils changent et sont constamment ajustés. De nombreux clients attendent encore de voir comment les choses évoluent.
Et la réponse ne se fait pas attendre. Au contraire, un grand nombre d'exportateurs nous disent qu'ils avaient anticipé. Aujourd'hui, ils se tournent non seulement vers d'autres marchés, mais ils ajustent également leur production.
Notre entreprise, comme beaucoup d'autres relativement solides, a mis en place des usines en Asie du Sud-Est. Nous avons commencé à planifier cela il y a quelques années. Actuellement, nous avons une usine à l'étranger, en Indonésie. Il s'agit en fait d'une contre-mesure assez courante et efficace.
Justement, Cléa, trouver des alternatives, se battre, c'est un peu l'esprit qui plane en Chine depuis l'escalade tarifaire.
Oui, alors oui, mais d'un point de vue pragmatique, certains exposants, comme Li, qui exporte des drones, eh bien, ils estiment qu'au vu de leur production, parfois très pointue, eh bien, ce sont les Américains qui vont payer le prix fort.
Je ne m'inquiète pas vraiment à ce sujet. Nous travaillons principalement sur les puces, l'assemblage de précision et les logiciels, des choses qui ne peuvent pas être fabriquées sur les marchés d'Asie du Sud-Est. Nous sommes donc toujours assez confiants dans ce domaine.
Même si elle espère tout de même que les tensions redescendent.
J'ai trouvé cela vraiment déraisonnable, comme s'il jouait à un jeu. Et c'est vraiment très irrespectueux envers la Chine en termes de commerce international. Je soutiens vraiment l'approche que notre pays adopte actuellement. Je comprends que la coopération doit être mutuelle. S'ils ne nous respectent pas, nous devons bien sûr nous défendre.
Alors, vous l'entendez, il y a donc une dose raisonnable de fierté en jeu et les exportateurs à la foire de Canton espèrent qu'un ou plusieurs accords seront trouvés le plus rapidement possible. Mais si ce n'est pas le cas, ils se préparent déjà à mettre des alternatives en place, notamment en ayant les yeux tournés vers le marché européen et, comme vous l'entendiez, en relocalisant pour la plupart leur chaîne d'approvisionnement en Asie du Sud-Est, Léa.
Cléa Broderst en direct de Pékin. Et parmi les pays visés par les droits de douane tous azimuts de Donald Trump, il y a aussi la Corée du Sud, productrice de semi-conducteurs. Pour tenter de trouver un accord, le ministre des Finances sud-coréen se rendra donc la semaine prochaine à Washington. Il y rencontrera son homologue Scott Bessent. Harvard résiste, Donald Trump persiste. Le président américain a haussé le ton contre la prestigieuse université hier en la menaçant de lui retirer les exonérations fiscales dont elle bénéficie. Déjà la veille, l'administration avait gelé plus de 2 milliards de dollars de subventions à destination de l'université, car cette dernière refuse de mettre fin à un certain nombre de programmes liés à la recherche ou encore à la diversité. Malgré les menaces du président américain, le bras de fer pourrait durer un moment. Harvard dispose de 53 milliards de dollars de réserves et cette somme génère d'importants intérêts. La suractivité, en tout cas, de Donald Trump sidère son prédécesseur. Joe Biden a pris la parole pour la première fois hier depuis son départ de la Maison Blanche. Il a jugé la politique de son successeur à couper le souffle et pas dans le bon sens. L'ancien chef d'État a regretté qu'il y ait eu en moins de 100 jours tant de dégâts et tant de destructions.
RFI 9h05 à Paris, le journal de Léa Boutin-Rivière et cette question après l'escalade, peut-être une tentative d'apaisement entre la France et l'Algérie.
Le ton a semblé changer ce matin côté français, tout du moins s'infléchir légèrement. Cela fait plusieurs jours que la crispation va croissant entre les deux pays. D'abord, un agent consulaire algérien a été arrêté en France. Réaction d'Alger, l'expulsion de 12 fonctionnaires français. Hier, Paris a à nouveau rétorqué en expulsant à son tour 12 personnels algériens et en rappelant son ambassadeur à Alger pour consultation. Les prises de parole se sont multipliées ce mardi, laissant craindre une nouvelle escalade, une étape supplémentaire entre Alger et Paris. Mais à la radio, ce matin, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a voulu éviter de jeter de l'huile sur le feu.
Là où nous sommes, et c'est très regrettable, c'est une situation où effectivement le dialogue se dégrade brutalement du fait d'une décision injustifiable de l'Algérie.
Vous n'êtes pas pour montrer les muscles encore plus ?
Je crois que en répliquant à la décision des autorités algériennes en expulsant 12 agents algériens en poste en France.
On est au maximum.
En rappelant notre ambassadeur pour consultation, nous démontrons sans aucune forme d'ambiguïté notre capacité à répliquer sans hésiter et avec fermeté.
Et on n'ira pas plus loin.
Je ne vais pas préempter le futur de nos discussions avec l'Algérie. Je dis simplement que si nous voulons des résultats pour les Françaises et les Français, il nous faudra un jour ou l'autre revenir à un dialogue franc, lucide et exigeant.
Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot. Le Hamas continuera de subir coup après coup. Ces mots, ce sont ceux hier du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en visite dans le nord de la bande de Gaza, où les frappes se poursuivent sans relâche, un mois après que la trêve a volé en éclats. Des propos qui pourraient faire vaciller les efforts diplomatiques déjà bien fragiles, au moment même où le groupe armé palestinien examine une proposition israélienne de cesser le feu. Bombardement quasi ininterrompu, situation humanitaire catastrophique. Parmi les conséquences de la guerre pour les Palestiniens, il y a aussi la confiscation d'une partie de leurs biens. L'armée israélienne admet détenir des milliers d'objets qui appartenaient à des détenus originaires de Gaza. Mais en dépit de la loi, les autorités refusent de donner plus d'informations. Combien de biens? Pour quelle valeur? Où sont-ils stockés? Vont-ils être restitués? Autant de questions auxquelles une ONG israélienne souhaite obtenir des réponses. Abla Junaidi, cette organisation va donc déposer un recours en ce sens.
L'ONG Hatzlacha demande une liste des biens appartenant aux prisonniers palestiniens arrêtés à Gaza depuis octobre 2023, qu'ils aient été libérés depuis ou non. Et Ladman est le juriste en chef de l'organisation.
Il y avait des téléphones, des cartes d'identité, des vêtements. On a aussi demandé des informations sur l'argent saisi par l'armée aux détenus de Gaza encore emprisonnés. Combien étaient classés comme relevant du financement du terrorisme et combien revenaient à des détenus libérés?
L'ONG, assistée par le journal Haaretz, a invoqué la loi israélienne sur la liberté d'information pour demander selon quel protocole ces biens ont été confisqués. Mais c'est un mur de silence qu'ils se sont vus opposer au nom du secret militaire.
Le refus de donner ces informations constitue un schéma inquiétant. Les raisons invoquées sont contestables et ne pourraient pas se justifier devant la justice. Le principe par défaut devrait être la transparence. Le contraire ne devrait se justifier que dans le cas où la sécurité nationale pourrait être réellement compromise.
L'ONG s'apprête à contester la décision selon les mécanismes prévus par la loi ou à se tourner si nécessaire vers les tribunaux au nom de la transparence et de l'intérêt public. Abla Junaidi, Jérusalem, RFI.
La machine diplomatique enrayée donc au Proche-Orient. En Ukraine aussi, Léa, les efforts sont pour l'instant infructueux.
En visite hier à Odessa, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a admis que les négociations initiées par Donald Trump ne sont pas faciles. Il en a profité pour dénoncer les terribles attaques russes, tout en affirmant soutenir les efforts du président américain. Après 3 ans de guerre, les effectifs ukrainiens comme russes sont de plus en plus clairsemés. Et en Russie, les autorités peinent à trouver de nouvelles recrues. Il faut donc parfois réhabiliter d'anciens militaires pourtant limogés, comme ce général qui, il y a quelques jours encore, attendait un procès pour avoir critiqué sa hiérarchie. Finalement, il a été réintégré à un poste de commandement, mais il n'a pas forcément gagné au change. Et pour cause, Pierre-Olivier, le voilà désormais à la tête de l'une des unités suicides, Stormzy.
À la manière des anciennes brigades Wagner, les Storm Z sont prêts à tout pour s'emparer de positions ukrainiennes ultra défendues. Depuis quelques jours, à la tête d'une de ces unités composée de 10 à 500 hommes, en majorité des criminels, se trouve donc l'ancien général Ivan Popov. Il y a encore 2 ans, il dirigeait la prestigieuse armée 58, tout auréolée de gloire. Mais Ivan Popov a commis une erreur, dénigrer un état-major particulièrement sensible aux critiques. Après avoir été envoyé en Syrie, sa situation empire. Et en mai dernier, il est arrêté et accusé de fraude, ce qu'il nie. Il encourt alors 6 ans de prison. C'est finalement une lettre envoyée à Vladimir Poutine pour lui dire tout le bien qu'il pense de lui, qui lui a permis la semaine dernière de réintégrer le commandement. Pour autant, difficile de dire si sa situation est plus enviable maintenant qu'avant. Selon la presse russe, le taux de survie dans les unités Storm Z tourne autour de 40%. En tout cas, le président russe, qui cherche à renforcer ses effectifs expérimentés dans l'armée, n'hésite plus à réintégrer d'anciens responsables déchus.
Précision Pierre-Olivier.
En France, dans le sud, à Tarascon, 3 voitures ont été incendiées devant une prison ce matin.
Mais ces véhicules appartenaient à des agents pénitentiaires. Dernière attaque en date contre les prisons, alors que plusieurs incidents de ce type ont déjà eu lieu dans la nuit de lundi à mardi dans plusieurs communes et localités. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a immédiatement pris la parole. Il dénonce des tentatives de déstabiliser l'État en l'intimidant. Hier déjà, Tanita Faleil s'était rendue à la prison de Toulon, théâtre de tir à l'arme automatique.
Sur presque tous les lieux attaqués, un sigle tagué par les auteurs, DDPF. Gérald Darmanin n'en connaît pas l'origine, mais il assure que l'enquête avance.
Il y a des groupes sur les réseaux sociaux, Telegram, Signal, qui se sont créés et qui manifestement encouragent de faire ce genre de fait. On ne sait pas très bien ce que signifie manifestement, il n'y a pas eu de revendication. Le parquet national fera une enquête et dira d'où vient ces graffitis ou ces revendications.
D'après le ministre de la Justice, ces attaques sont liées à sa politique de lutte contre le narcotrafic.
C'est aussi peut-être le fait qu'on a touché là où ça fait mal et que pour la première fois depuis des décennies, la France prend des mesures extrêmement dures contre le narcotrafic dont les narcotrafiquants ont peur et veulent faire reculer l'État. C'est la première fois qu'une mesure est prise et qui manifestement stresse le monde de la criminalité organisée.
Référence à l'ouverture de 2 prisons de haute sécurité dans les départements de l'Orne et du Pas-de-Calais en juillet et octobre prochains. Les narcotrafiquants les plus dangereux y seront incarcérés dans des conditions très strictes.
Une précision signée Tanita Fallet. Sachez que le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête sur ces attaques coordonnées. Et puis, ça se passe en France aussi, cette récompense à la hauteur de l'effort acharné fourni pendant 5 ans. Hier, 100 fonctionnaires, entrepreneurs ou encore artisans ont été reçus à l'Élysée. Ils devaient y recevoir, selon les cas, la Légion d'honneur ou bien la médaille de l'Ordre du Mérite pour le rôle joué dans la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Un événement aussi solennel qu'émouvant, Tom Malky.
Sur le parvis de l'Élysée, une mère est venue assister à la décoration de son fils, Alexandre Goujon, artisan campanaire.
C'est lui qui s'est occupé des cloches de Notre-Dame. Tous les étés, il allait travailler dans les clochers avec son père et avec les ouvriers. On vient de visiter Notre-Dame et j'ai visité aussi toutes les cloches avec lui. Ben, je lui dis bravo, magnifique, hein, c'est le plus beau chantier de ta vie, hein, certainement.
Monsieur Waziz Abous, nous vous faisons chevalier de l'Ordre National du Mérite.
La veste ornée d'une médaille bleue, Waziz Abrous, responsable de la sécurité incendie, est très ému.
C'est une journée spéciale pour nous. Vous savez, moi, quand je suis arrivé à la cathédrale, 3 mois après l'incendie, c'était un tas de cendres. Voilà, je suis fier d'avoir restauré la cathédrale Notre-Dame de Paris.
À l'Élysée, sous les moulures dorées de la salle des fêtes, il y a des sourires et des accolades. Philippe Mouton, planificateur du chantier, salue un travail d'équipe.
Parfois, on nous appelle les bâtisseurs de cathédrales. On a été tellement tous solidaires que c'était formidable. Et en même temps, je pense que je ne réalise pas complètement ce qu'on a fait.
Mais pour certains artisans, le chantier n'est pas terminé. De nouvelles rénovations sont prévues sur la façade extérieure de la cathédrale. Elles doivent durer jusqu'en 2028.
Tom Malky pour refermer ce journal.
Merci Léa Boutin-Rivière. Vous écoutez RFI, il est 9h15 à Paris tout de suite. La revue de presse internationale. à la une, Frédéric Couteau. Harvard fait de la résistance.
D'un côté, constate le Boston Globe, le gouvernement de la plus grande démocratie du monde. De l'autre, l'institution d'enseignement la plus prestigieuse de la nation, à savoir Harvard, l'université la plus ancienne des États-Unis, fondée en 1636 près de Boston. L'affrontement est titanesque entre Harvard et l'administration Trump, pointe le quotidien américain. Le gouvernement fédéral a exigé qu'Harvard accepte une longue liste de demandes radicales, y compris de renoncer à tout engagement en faveur de la diversité ou encore de l'équité sous quelque forme que ce soit. L'université a dit non et en véritable mafieux, fulmine le Boston Globe, Trump et ses sbires ont réagi en gelant plus de 2 milliards de dollars de fonds destinés à l'université parce que personne ne dit non à Trump. Cette guerre, précise le journal, est menée sous le prétexte que Harvard et d'autres universités seraient des foyers d'antisémitisme, mais ça n'est pas le cas. En fait, Trump veut mobiliser le pouvoir du gouvernement fédéral pour redéfinir des pans entiers de la vie américaine, mais le président n'est pas le gouvernement, s'exclame encore le Boston Globe, et il n'est pas le pays c'est nous tous, c'est le principe que défend Harvard.
Le Washington Post est tout aussi catégorique.
L'université de Harvard vient de nous donner une leçon sur la façon de répondre à un tyran par un mot puissant, non. L'administration Trump a tenté d'intimider Harvard, comme elle l'a fait pour tant d'agences gouvernementales, de dirigeants d'entreprises, de cabinets d'avocats et d'autres universités, en menaçant de lui couper les vivres. Harvard a refusé de capituler, donc l'université ne renoncera pas à son indépendance ni à ses droits constitutionnels, a écrit son président Alan Garber. Aucun gouvernement, a-t-il poursuivi, quel que soit le parti au pouvoir, ne devrait dicter ce que les universités privées peuvent enseigner, qui elles peuvent embaucher et quels domaines d'études et de recherche elles peuvent poursuivre. Récemment, pointe encore le Washington Post, un éditorialiste du Financial Times, affirmait que Trump, à l'instar de Mao Tse-tung en Chine il y a plus de 50 ans, s'était lancé dans une révolution culturelle visant à renverser les élites bureaucratiques et culturelles ancrées dans les grandes universités du pays. Les professeurs libéraux ne sont pas encore contraints de porter des bonnets d'âne ou de travailler dans des camps de rééducation, dans des fermes ou dans des usines, mais c'est peut-être la prochaine étape.
Attention, prévient La Croix à Paris.
Oui, sans surprise, Donald Trump, sorte de catcheur populiste, adepte de la post-vérité, s'illustre comme un adversaire de la science et du partage des savoirs. En laissant prospérer cette chasse aux sorcières, aux relents maccartistes, les Américains continuent de se battre contre eux-mêmes et leur démocratie. Dans cette guerre culturelle, notamment par le jeu des échanges et des collaborations universitaires, c'est aussi l'intelligence collective qui est fragilisée, moins directe et moins spectaculaire que les récents coups de force économiques. La menace n'en est pas moins dangereuse, prévient encore La Croix. Ne nous pensons pas à l'abri.
À la une également, le football avec la qualification in extremis du PSG hier soir en demi-finale de Ligue des Champions.
Happy End, titre l'équipe à Paris. Mais quelle sueur froide, s'exclame le quotidien sportif. Les Anglais d'Aston Villa l'ont emporté 3-2, mais les Parisiens l'avaient emporté au match aller 2-0. Le PSG bousculé, pétrifié, mais qualifié, lance le Parisien. Aston Villa a un retour épique qui a échoué de peu, soupire le Guardian à Londres. Le Times, lui, se console. Aston Villa est éliminé de la compétition européenne, certes, mais a refusé de se laisser abattre sans se battre, prouvant ainsi que l'équipe a sa place dans cette Ligue des Champions. Enfin, on revient à l'équipe qui attend la suite avec impatience. En demi-finale, les Parisiens affronteront Arsenal ou bien le Real Madrid. Le PSG pourra tranquillement regarder la télé ce soir pour savoir s'il retrouvera dans 15 jours Arsenal, son vainqueur d'octobre dernier, ou bien s'il retrouvera le Real avec un certain Kylian Mbappé.
Frédéric Couteau pour la revue de presse. Et ce soir, les derniers quarts de finale retour de la Ligue des Champions sont à suivre en direct sur notre antenne. Rendez-vous à 20h50, heure de Paris. Un chèque de 12 milliards de dollars reçu hier par l'Argentine, première tranche du vaste prêt prévu par le FMI en soutien au plan de stabilisation de l'économie lancé par le gouvernement de Javier Milei. Le président argentin qui s'est largement réjoui ces derniers jours depuis l'annonce de ce prêt et il prévoit même que l'Argentine, je cite Javier Milei, sera le pays avec la plus forte croissance économique dans les 30 prochaines années. Pour ce faire, le dirigeant va s'appuyer sur les aides internationales mais aussi sur ses mesures de réduction drastique des dépenses publiques qui ont jusqu'ici entraîné la suppression de la moitié des ministères, de plus de 40 000 postes de fonctionnaires, mais aussi la disparition de certaines politiques publiques. À Buenos Aires, Théo Conscience.
Ils m'ont viré. Ils m'ont viré après 25 ans, répète Noria Farias en larmes.
Devant la porte du ministère du Capital Humain à Buenos Aires, des agents de police contrôlent l'identité des travailleurs.
Ils nous traitent comme des délinquants sur le lieu où nous sommes venus travailler pendant des années.
Le vendredi précédent, à 22h30, plus de 1800 employés du ministère ont appris par mail qu'ils étaient licenciés.
C'est d'une cruauté, nous n'avons pas été convoqués, personne n'assume ses responsabilités. On a simplement reçu un mail générique qui dit qu'on est licencié.
Nora ne recevra aucune indemnité. En tant qu'agent contractuel de la fonction publique, elle a enchaîné pendant plus de deux décennies des contrats d'un an renouvelable. À son arrivée au pouvoir, le président Javier Milei a réduit la durée de ses contrats à 3 mois et à chaque échéance, des milliers de postes sont supprimés.
En décembre dernier, ils nous ont fait passer un examen en nous promettant que si on le validait, notre contrat serait renouvelé pour un an.
Malgré cette promesse, le poste de Lucia vient d'être supprimé. Comme 96% des quelques 40 000 fonctionnaires soumis à ce test d'aptitude, elle l'avait pourtant validé.
Ce test est une honte. C'était juste une manière de nous mettre sous pression. Je pense qu'ils nous sous-estiment tellement qu'ils pensaient que nous n'allions pas le valider. C'est pour cela qu'ils n'ont pas tenu leurs promesses sur les renouvellements de contrats.
Après 11 ans dans la fonction publique, Lucia se retrouve donc à chercher du travail en pleine crise économique.
On est touché personnellement car il faut qu'on paye notre loyer, qu'on achète à manger, mais à côté de cela, en licenciant des fonctionnaires, ils sont en train de supprimer de facto des politiques publiques. Et il faut comprendre que cela signifie que les personnes vulnérables n'auront plus personne à qui s'adresser.
Comme Lucia et Nora, Gustavo Grosso travaillait pour un département du ministère chargé d'accompagner et de subventionner des projets communautaires. Le département a été dissous et l'intégralité de ses employés licenciés.
Les projets sur lesquels je travaillais avaient pour but de financer des bibliothèques, des radios communautaires ou des terrains de foot pour des clubs. Les conséquences sont considérables et elles seront de plus en plus criantes dans le futur.
En tant qu'anarcho-capitaliste, Javier Milei rêve d'une société sans État où les relations humaines seraient entièrement régulées par la main invisible du marché, rappelle Laura Vichaflor, qui a elle aussi vu son poste supprimé.
Chaque fonctionnaire en moins fait reculer la présence de l'État sur le territoire et participe donc à l'affaiblissement de l'État qui est au cœur du projet politique de Javier Milei.
Pour l'année 2025, Javier Milei a annoncé la couleur. La Deep Motosierra, ou tronçonneuse profonde, supprimera ou fusionnera 60 organismes de l'État. En Sciences Buenos Aires, RFI.
Buenos Aires, où il est 4h22, 2h22 à Medellín. Et nous partons en Colombie. À présent, la Colombie où le meurtre particulièrement brutal d'une femme transgenre fait beaucoup de bruit dans le pays. Plusieurs rassemblements ont d'ailleurs été organisés en mémoire de la victime. On en parle tout de suite avec notre correspondante Najet Benrabah. Bonjour Najet.
Bonjour à tous et à toutes.
Alors, d'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter exactement ce qu'il s'est passé ?
Alors, Sarah Miré, donc une femme transgenre de 32 ans, a été retrouvée agonisant dans un affluent de la rivière qui traverse la ville de Bello. C'est une ville qui se trouve à la frontière nord avec Medellín. Un groupe d'hommes l'a torturée avant de la jeter à l'eau avec les bras et les jambes cassés. Sarah s'est alors débattue pendant près d'une heure dans l'eau polluée, accrochée à une branche, appelant à l'aide. Elle a été transportée à l'hôpital, c'était le 4 avril dernier, et elle est morte le lendemain d'une crise cardiaque. Une vidéo de son agonie a été filmée et postée sur les réseaux sociaux, provoquant alors l'indignation dans le pays. Aussitôt, vous l'avez dit, des rassemblements de soutien se sont multipliés dans plusieurs villes pour demander justice et dénoncer ce qu'on nomme alors un transféminicide. C'est-à-dire qu'elle aurait été tuée parce qu'elle était une femme transgenre.
Et ce meurtre, Najet, eh bien, il fait beaucoup réagir, notamment parce que ce n'est pas un cas isolé en Colombie.
Oui, ce type de meurtre transphobe ou homophobe ne cesse d'augmenter depuis la fin de la pandémie de Covid-19. Écoutez Arley Cordoba-Rodriguez, c'est le co-directeur des droits humains au sein de l'organisation Alliance Sociale LGBTQ+, d'Antioquia.
Entre 2022 et 2023, nous avons vu une augmentation de 200% des assassinats à Medellín dans la vallée d'Aburrá du département d'Antioquia. À ce jour, nous comptons 26 morts violentes de membres de la communauté LGBTI en Colombie. La moitié de ces morts violentes ont été enregistrées à Antioquia et une grande partie d'entre elles était à Medellín et dans la vallée de Aburrá. Cela doit nous mettre en alerte. Ce phénomène dure depuis depuis déjà 2 ou 3 ans. Les modes opératoires des assassinats sont similaires. Les victimes sont souvent assassinées chez elles, asphyxiées mécaniquement avec les pieds et poings liés. Et les femmes trans sont souvent agressées. Elles sont tuées d'une manière extrêmement violente avec des sévices et beaucoup d'entre elles sont jetées dans la rue ou dans les affluents ou rivières, comme dans le cas de Medellín, dans la rivière du même nom.
Alors, Najat, concernant le cas de Sarah Miret dont on parlait, est-ce que les autorités ont réagi ?
Alors oui, une enquête est en cours pour retrouver les agresseurs. Une récompense même de 50 millions de pesos, c'est à peu près 10 000 euros, a été annoncée par les autorités pour toute information utile. Il faut savoir qu'en Colombie, l'espérance de vie d'une femme transgenre est en moyenne de 30 ans et que d'après le ministère de l'Égalité, depuis janvier, une femme transgenre est tuée tous les 3 jours.
Najat Benrabah, correspondant d'RFI en Colombie. Merci à vous, RFI Matin, vous restez tout de suite et notre question d'environnement. Florent Guignard, ce matin, on parle avec vous d'agriculture au naturel. Et pour notre question d'environnement, on s'interroge, quelle est, Florent, la richesse insoupçonnée de nos excréments ?
Bon, on est un peu pipi-caca ce matin, Andréane, mais on va dire que c'est pour la bonne cause, c'est pour le bien de l'agriculture, parce qu'on va parler d'engrais naturels. Vous savez qu'Andréane, nos excréments sont pleins de phosphore. Et le phosphore, eh bien, les plantes, elles adorent pour leur croissance, leur développement, comme c'est le cas aussi pour l'azote et le potassium. Explication de Christophe Gatineau, il est agronome.
C'est un des rois de la réalisation de la photosynthèse. Donc, si les plantes n'ont pas accès au phosphore, eh bien, elles sont ce qu'on appelle victimes de nanisme. C'est-à-dire, eh bien, elles vont, certes pousser, mais pousser pour se reproduire au plus vite. En tout cas, ce sont plus des plantes qui nourrissent.
Et c'est pour ça qu'en agriculture conventionnelle, on utilise justement des engrais à base de phosphate.
Et il y a donc une solution, vous dites, plus naturelle.
Et oui, vous, moi, tout le monde produit du phosphore. Et c'est ce que défend Christophe Gatineau. Il vient d'écrire un livre qui s'intitule « Ne tirons plus la chasse » parce que vous savez, on trouve ça normal en fait d'utiliser l'eau du robinet pour les toilettes pour évacuer ces déjections alors que 9% de la population mondiale n'a pas accès à l'eau potable. En France, un chiffre, une personne chaque jour gaspille 30 litres d'eau potable, rien qu'au WC. Alors pourquoi envoyer nos excréments dans les égouts alors qu'on pourrait les recycler ?
On est une véritable usine à engrais agricole. Nous en produisons de quoi couvrir un quart des besoins de notre agriculture. Qu'est-ce qu'on fait ? Ben on le jette en fait. On tire la chasse et en fait, ce que nous excrétons, ben, c'est le produit digéré de ce que nous avons mangé. En dehors des poissons et de quelques crustacés, ben, on mange des plantes ou alors des animaux qui ont mangé des plantes. Les éléments nutritifs, ils doivent revenir ben, là où ils ont été prélevés, c'est-à-dire dans le sol.
Voilà, vous connaissez la célèbre formule du chimiste français Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
Et il s'agit là finalement de revenir à des méthodes ancestrales.
Elles sont d'ailleurs encore utilisées par de nombreux paysans dans le monde qui n'ont pas les moyens d'acheter des engrais chimiques. Les déjections servent à enrichir le sol, l'humus, parce que sous nos pieds, il y a de la vie. Il y a de l'activité, Christophe Gatineau.
Le temps que les matières fécales se minéralisent, c'est-à-dire se transforment en éléments nutritifs, c'est le système naturel, ben, par les micro-organismes et puis par toute la faune du sol et en particulier par les vers de terre. On n'a rien trouvé de mieux depuis la naissance de l'agriculture.
Et l'urine n'est pas non plus à négliger, Florent.
Eh bien non, parce que notre urine, elle, est pleine d'azote, et ça aussi, les plantes en ont besoin. Alors c'est vrai qu'il y a une petite barrière psychologique. Quand on passe à table, Christophe Gatineau nous parle de ses carottes, qu'il fait pousser et qu'il sert à ses invités.
Ils aiment le goût, en fin de compte, elles ont une très belle couleur, belle texture sous la dent et tout, et je leur dis, bah oui, elles ont été élevées avec les urines de la famille. C'est le choc. C'est rigolo. On dit, oh, ça doit être dégueulasse, ça doit être rempli de microbes. En revanche, si je leur avais dit qu'elles avaient été élevées aux engrais chimiques et aux pesticides, ça n'aurait pas posé de problème. C'est ça qui est curieux.
Voilà, nos déjections, c'est un peu comme du fumier humain. C'est naturel, c'est gratuit, c'est cacastucieux.
Tout est dit. Merci Florent Guignard. RFI dans une minute, le journal.
Le prix théâtre RFI.
Je suis Gad Ben Salem, lauréat du prix RFI Théâtre 2024. Ça a été une expérience enrichissante à tous les niveaux. Ce prix est un véritable tremplin. C'est à votre tour.
Si comme Gad Ben Salem, vous aimez le théâtre et vous avez moins de 46 ans, vivez en Afrique, aux Caraïbes ou au Proche-Orient, envoyez vos textes, drames ou comédies avant le samedi 3 mai minuit à prix.théâtre@rfi.fr.
Chers auteurs, chères autrices, le prix RFI Théâtre 2025 peut être vous.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
40 ans après son enlèvement au Liban, où il est resté otage plus de 1000 jours, Jean-Paul Kaufmann se souvient surtout de son enfance en Bretagne, dans un petit village. Une époque, dit-il, dont les images heureuses l'ont sauvé de la captivité. Un témoignage inédit qu'il livre dans son nouveau récit intitulé « L'accident ».
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI.